Hey, so this. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Lila Cadeau Boudani.
Bonjour à tous.
Frédéric Silis.
Bonjour.
Albert Algout.
Bonjour.
Et Chardonna qui est avec nous. Et nos invités sont Grand Corps Malade et Paolo Poli. J'ai encore dérapé, mais
c'est autre chose. Tout à l'heure, t'as dit Paolo, Paoli, Paolo, Poli.
Je me suis tellement concentré sur le Poli que j'ai dérapé sur le Pablo. Ouais. C'est n'importe quoi. Ça commence super mal cette émission. Pourtant, pour un film très bon qui s'appelle Patient, qui sort demain au cinéma, 1er mars, premier film de Grand Corps Malade. Merci d'être tous les deux à ce micro. J'espère, Maréchal, que vous avez compris pourquoi Grand Corps Malade et Pablo sont nos invités.
Affirmatif. Sachez que j'apprécie le tact et l'insistance qui sous-tend pour une fois votre question, car eu égard au handicap qui est le mien et dont vous connaissez la nature.
C'est-à-dire
je précise à l'attention de nouveaux auditeurs venus de Radio Courtoisie que je me suis fait trancher des bouts de cul par les Viettes en Indo. Bon, vous doutez
ce
bien
qui
donc...
Ce vous empêche de rester assis longtemps.
Voilà, plus 3 minutes. Ouais. Vous doutez bien qu'à la différence... Quand ça me connaître. Vous doutez... Je vais y arriver. Vous doutez bien qu'à la différence des individus assis à cette table, tous irrémédiablement hermétiques à toute souffrance humaine, dont celle de Daniel Morin d'ailleurs, qui se réjouissait tout à l'heure.
Oui, et c'est vrai.
Et notamment...
Il est malade, je le rappelle, et je suis ravi. Mais non, mais il faut qu'il souffre.
Et insensible
qu'il comprenne les valeurs de la vie, Daniel, c'est bien.
Je ne pouvais pas, si je peux continuer, rester insensible à Patient, un titre évidemment à double sens. Le film que vient de nous présenter M. Poli est malade. Bonjour Pablo, bonjour Grand
Corps. Monsieur Poli est malade, ah oui d'accord.
Au passage, Nagui, je vais faire une fois de plus ce que vous m'avez ordonné juste avant l'émission.
S'il
quand,
vous plaît.
Entre deux baffes dans ma gueule, vous m'avez dit « Maréchal, Maréchal, j'ai encore rien foutu pour l'émission. Depuis dimanche, je me refais OM-PSG en boucle et je me régale de l'humiliation subie par les cacous de la canne-bière, justement
jamais.
À s'entretuer à la canache et à bouffer de la mauvaise bouillabaisse. Et vous avez ajouté « Ça m'arrangerait que vous me fassiez le pitch du film. » Parce que Jean-Baptiste...
Son of a pitch. J'ai toujours
besoin d'un orthophoniste. Le pitch de film...
Non.
Parce que Jean-Baptiste Bussière, notre rédac-chef, qui d'habitude me souffle mes questions dans l'oreillette depuis la régie, a une extinction de voix. Et donc, à partir de votre résumé, j'aurai de quoi meubler. Le pitch, le voici donc. À la suite d'un grave accident, Ben, un basketteur, se retrouve dans un centre de rééducation où il va tenter de retrouver son autonomie perdue. Ses nouveaux amis sont tétra, para, comme moi, ou trauma crânien. Ensemble, ils tentent de réapprendre à vivre... Et leur histoire est celle d'une renaissance chaotique, faite de victoires et de défaites, d'espoir et de désespoir, de larmes et d'éclats de rire. J'aime bien les montées, les descentes. Un récit poignant, mais sans pathos, et drôle même, d'où il ressort qu'on ne guérit pas seul et que l'identité de quelqu'un ne doit pas être réduite à son handicap. C'est beau ce que
tu dis. C'est joli. C'est joli.
À ce sujet.
C'est pas vous qui avez écrit.
À ce sujet, je tiens, malheureusement, si. À ce sujet, je tiens à vous présenter un ami, Roger, ancien para.
Oui.
Lui aussi, mais dans la Légion, que j'ai connu en Inde.
C'est même pas le même genre de para, oui.
Balancé par les Viettes dans une broyeuse à bambou, il en était ressorti vivant, mais ça n'était plus qu'une bouillie humaine que depuis je trimballe avec moi dans une bassine à confiture en cuivre de la Châtre. D'où le surnom de Roger, depuis que lui aussi s'est mis au slam, de Grand Corps Marmelade. Vas-y, Grand Corps Marmelade, balance ton slam. Vas-y, Richard. Bonjour Nagui, bonjour Fabien. J'espère que tous vous allez bien. Et comme je sais rester poli, je salue aussi Pablo Poli. Aujourd'hui, dans la bande originale, je viens slammer pour le maréchal. Lui aussi, autrefois, a connu la galère. Mais bien pire que tout ça, car c'était à la guerre. En Indo, par les Viettes, c'est en montant au front qu'il fut mutilé très gravement au fion. Ok, j'ai vu votre film, monsieur Grand Corps Malade, mais faudrait quand même pas me raconter des salades. Ok, il a du cran, votre héros nommé Ben, mais le maréchal Ganache en a bien plus dans le Ben.
Non,
c'est bon, j'ai...
Mais c'est nul, mais c'est pathétique.
J'ai envie de vous dire, wesh, les gars et les filles, je vous souhaite une bonne émission.
Oh non.
Merci Roger, vraiment, tu m'as bouleversé. Et bon rétablissement à Daniel Morin, évidemment.
Bon, Maréchal.
Au moins, Leïla, j'ai apprécié le bon slam.
sur France Inter.
Ouais, moi ça m'a plu.
Ah ouais, toi ça t'a plu. Mais
il a une belle voix.
Petit moment de solitude. Roger. Je propose qu'on passe un disque en attendant de parler, parce que là, ça va pas être possible.
Il y a en même temps une sorte de presque de plaisir dans son regard à lui. Et puis vous voyez Fabien en face qui était
de la pitié.
Triste.
Moi j'ai vu de la pitié.
Vraiment triste. Fabien. Oh là là, c'est dur.
Je sais, j'ai vu des larmes. Je pense qu'elles étaient d'émotion. Et non
exactement,
de non,
j'étais ému, très ému.
Voilà.
Pablo Poli et Grand Corps Malade se retrouvent donc. L'un devant la caméra, c'est Pablo. L'autre derrière la caméra, c'est Grand Corps Malade pour votre film tiré librement adapté même du roman Patient. Vous êtes vous-même librement adapté.
Je crois que c'est un terme un petit peu standard parce qu'il n'est pas si librement adapté que ça. Il est assez fidèle.
C'est ça.
Il est très fidèle au livre. C'est les mêmes personnages, c'est la même histoire. Après, évidemment, il y a des choix. Hein. Dans un film, on met un petit peu moins de choses que dans un livre. On fait des zooms, quoi. Donc, il y a des zooms sur certains personnages.
À propos de formules employées, toute ressemblance avec une personne existée n'est absolument pas fortuite. Hein. C'est avec ça, ou je ne sais pas, la formule exacte. Enfin, ça
ouais,
veut dire
non,
que...
c'est complètement mon histoire.
Tout est vrai.
Tous les personnages du film ont existé. Après, voilà, on explique souvent qu'on a voulu rendre le personnage un peu plus universel. Il s'appelle Ben et pas Fabien. Le but, c'était pas de faire un biopic sur ce qu'était Grand Corps Malade avant de faire de la musique. C'était d'ouvrir un peu le sujet, quoi. Et que le fait que ce soit mon histoire vienne pas polluer le vrai propos.
Non, mais ça crédibilise. Le vrai propos, c'est de dire, voilà ce que vivent les patients.
En tout cas, on a collé à la vraie histoire parce qu'il se trouve que, du coup, ça nous permettait d'être plus crédibles sur ce milieu-là, quoi.
Pablo est absolument remarquable dans ce film. Non, mais sincèrement.
Bluffant.
Là, il est barbu, ce qui fait qu'il est beaucoup moins ressemblant, évidemment, à Fabien, à Grand Corps Malade. Mais c'est dans le film, il y a deux, trois scènes qui sont troublantes de ressemblance. Et pourtant, dans une interview, Grand Corps Malade disait qu'il ne vous avait pas choisi pour la ressemblance. Vous étiez déjà barbu au moment du casting?
Même au casting, j'avais même une énorme barbe et cheveux longs.
D'accord.
Dans un autre film, donc la ressemblance, elle n'existait pas du tout. Puis vu étant un peu roux, Fabien, ça le dégoûte très rapidement.
Mais c'est bien qu'on aborde le sujet quand même, parce que
des
c'est.
Roux,
ah bah, non, en plus, je suis pas seul en France. Au bout d'un moment, j'aimerais qu'on se regroupe.
Ah les anti-roux. Mon Dieu, quelle horreur.
Donc il y a absolument aucune ressemblance. Puis petit à petit, on te coupe les cheveux, la barbe, on te met des fringues des années 90, qui est sa belle époque à lui, et passant 24 heures sur 24 avec lui, à le filmer, à lui voler des choses. Je pense qu'inconsciemment, tu récupères 2-3 gestes.
Il y a du mimétisme, en tout cas. Et à propos de ces années, de ce flashback qu'il y a notamment avec les émissions regardées dans la chambre. À l'hôpital, il y a carrément le générique de la Gaumont. Vous avez pris le vieux, c'est-à-dire vous êtes allé au bout de la vanne, quoi.
Ouais, ça commence. On voulait mettre le spectateur, même inconsciemment, dans l'ambiance des années 90. Donc on démarre par le vieux générique.
J'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai dit, ils nous font une rediff.
Et le télé-shopping.
Interville.
Interville, j'adore.
Et les clips. Enfin,
avec Nathalie.
Il y a la totale. Ce film est d'autant plus fort qu'il nous met dès le début à la place du patient. C'est vrai qu'il y a le jeu de mots avec le fait qu'il faille. On est patient, on est malade, et en même temps, il y a une course contre le temps, ou du moins le temps représente des plombes et des plombes. Une chanson peut passer pour 6 heures, une journée pour plusieurs mois. Tout paraît beaucoup plus lent et beaucoup plus long. Et on est à la place du patient dès le début, avec ce plan en caméra subjective d'un œil qui s'ouvre ou deux yeux qui s'ouvrent et qui se ferment sur un plafond. C'est la première chose que vous retenez.
Ouais, quand tu as passé un mois allongé, en réanimation, avec comme seul horizon ce plafond, voilà, tu peux difficilement ne pas couper à cette image-là. Voilà, il y a juste un plafond en face de toi et les visages de ceux qui ont la mobilité de bien vouloir se pencher un peu pour discuter avec toi.
Les aides-soignants, les infirmiers, infirmières, les médecins,
les
aussi,
parents.
La galerie de portraits est proche d'arrêter aussi.
Ouais,
L'aide-soignant que j'avais envie de baffer au bout de 2 minutes.
Le fameux Jean-Marie.
Jean-Marie, si il existe, pardon. Il existe,
il est même, je pense, encore plus fou que celui de notre film.
Il parle à la troisième personne pour expliquer et il commente absolument tous les gestes qu'il fait.
Et il va bien, il va prendre une tartine et il veut du beurre sur sa biscotte. Oh, je vais lui tartiner de la biscotte et ainsi de suite. C'est juste.
Et surtout à 7h30 le matin, quoi, c'est un peu dur. Mais en même temps, il est attachant et finalement, t'as pas le choix, quoi. Quand t'es dépendant de lui, pardon, pour les moindres gestes, forcément, tu vis au travers de ses gestes à lui et tu t'attaches et t'as besoin de lui tous les jours.
D'ailleurs, c'est ce que vous montrez très bien dans le film, c'est que un geste assez quelconque du quotidien, pour nous, devient un vrai chemin de croix, en fait, pour n'importe lequel de ces hommes.
Ne serait-ce qu'appuyer sur la télécommande pour changer de chaîne.
Ouais, du coup, c'est des petites anecdotes qui peuvent faire rire et en fait, qui sont lourdes lourde de sens. Ouais. Voilà, la télécommande, c'est-à-dire que tu as 20 ans, donc souvent l'aide-soignant il met les clips sur la 6, mais sauf qu'après les clips il y a M6 boutique, et quand l'aide-soignant est plus là, tu peux plus zapper parce qu'ils n'ont pas l'usage de leurs mains. Et voilà, pendant 6 mois, un an, tu te tapes les ceintures qui font les abdominaux, les centrales vapeur. Ouais. Et donc voilà, c'est.
Ce qu'il faut dire, c'est que il y a beaucoup d'émotions dans le film. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires de respect aussi, tout le regard des autres. Ça ne tombe jamais dans le pathétique, ça ne tombe jamais dans le pathos. Enfin, moi, j'avoue avoir pleuré pendant le film.
Mais tu pleurais déjà avant d'y aller.
C'est marrant. Non, non, non. Et ce qui est surprenant, c'est que Fabien, la première chose qu'il m'a dit, c'est oui, à quel moment? Et c'est pas spécialement un moment, c'est plutôt un moment d'émotion et de force et d'amour, parce que l'amour est très présent, notamment avec les amis, avec la famille. Vous avez raison, très très présente, avec même la drague. Et il y a des vannes,
et l'humour, chambrées. L'humour est génial.
Mais c'est drôle, mais c'est un point dingue. Il y avait vraiment autant de vannes?
Ouais, vraiment. C'est les acteurs à la lecture du scénario étaient un peu inquiets de se dire mais est-ce qu'on a le droit de dire ou de faire ça? C'est quand même, vous allez loin. Et en fait, quand ils sont allés dans le centre de rééducation, parce qu'on a tourné dans le vrai centre où j'étais à 19 ans, et puis avec les vrais patients qui étaient figurants dans le film, voilà, tous les acteurs se sont vite aperçus que ouais, c'est cette humeur là, cette ambiance là de vanne très trash, elle existe vraiment. Il y a un vrai humour handicapé avec ses codes, ses grands classiques. Il y a des blagues classiques qui
passe
vont de centre
sel,
en centre.
Passe-moi le sel,
les amputés qui disent tu t'es levé de quel pied ce matin, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est tu sais où est-ce qu'on peut trouver un tétraplégique? Bah, au dernier endroit, on l'a laissé. Donc voilà, ça ça te met vite dans l'ambiance, et c'est ça, c'est...
Elle marche encore apparemment, hein. Ça marche bien.
Et la vanne du bus dans le film, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des blagues qui circulent. Donc,
non, mais ce qui est fort, encore une fois, ça prouve qu'on peut rire de tout, ça dépend qui fait la vanne. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un sur un fauteuil qui fait cette vanne-là, on peut en rire. Si c'est quelqu'un de valide, de musclé, qui l'a fait avec un rire gras derrière, d'un coup, ça passe plus du tout, quoi.
Ouais, alors faut qu'ils connaissent, qu'ils connaissent un peu le milieu. De toute façon, s'il le connaît pas, il osera pas la faire, la vanne. Mais j'ai vu des valides proches de personnes handicapées qui sont sans pitié aussi, et des aides-soignants qui font des grosses vannes aussi. Quand tu connais le milieu, tu peux te permettre.
Pablo, ça vous a surpris en tout cas que les vannes aillent si loin, qu'ils se chambrent autant dans la vraie vie. Comme
et là,
on
parle pas des vannes sur les roues, hein. On parle
non, monsieur, bien entendu, heureusement. Non, ça m'a pas du tout choqué. Moi, j'aime beaucoup ça. Pierre Desproges demandait si on pouvait rire de tout avec tout le monde. Ben, là, c'est vraiment la preuve. Au début, tu n'oses pas vraiment sentir tout ça. Puis tu comprends qu'en fait, eux, ça leur fait du bien d'être considérés comme tout le monde.
C'est salutaire, quoi. Ils ont même besoin de ça.
Ouais, je pense. Ouais. Donc, tu te lances là-dedans. Nous, je crois qu'on a la vanne assez facile, tous dans l'équipe. Donc, plus c'est trash, plus ils aiment ça. Et ça te renvoie ta propre image. C'était un beau moment à passer.
Ça me fait penser à Jacques Martin, qui, à la fin de sa vie, malheureusement, était hémiplégique. Et je l'avais croisé, je lui demande comment ça va, il me dit à moitié.
Voilà, ça se voit, ça ouais,
mais c'est la force de l'autodérision. Et c'est... Alors justement, qu'est-ce qui, avec le recul, avec ce film, vous vous dites ce qu'il y a de plus fort et de plus important? Vous avez choisi ce titre de patient pour le roman comme pour le film, c'est le temps. C'est ça qui est le plus...
Il y a plein de choses importantes. C'est vrai que le temps en est une. À l'hôpital, on s'ennuie beaucoup, on attend beaucoup. Alors en plus, quand on n'est pas autonome pour les gestes du quotidien, et les tétraplégiques le sont absolument pas, ouais, là, le temps prend une autre dimension. C'est-à-dire que t'attends pour tout. T'as envie de te coucher un peu, bah, tu peux pas t'allonger tout seul. Mmh. T'attends un aide-soignant. T'as envie d'allumer la télé, de changer de chaîne, de boire un coup, d'aller aux toilettes. Tu ne peux rien faire tout seul. Donc,
y compris faire pipi. Et alors là, vous allez même jusqu'au bout de la vanne. C'est-à-dire que vous avez un pote au téléphone. Et vous lui racontez comment on va vous introduire une sonde
urinaire.
Et vous en rajoutez presque pour l'écœurer, pour lui.
Ça, c'est des choses vécues. C'est-à-dire que la sonde urinaire, pour un homme, c'est pas très sexy. Ça rassure pas beaucoup.
Et quand tu racontes ça. Le dernier endroit où on a envie que truc rentre, c'est sûr.
Et quand tu racontes ça à quelqu'un, à un pote, forcément, il te dit arrête. Ouais. Donc forcément, t'en rajoutes. Il y a 40 cm quand même que tu vas mettre tout au bout. Et ça, si on ne parle pas de ça, c'est qu'on passe à côté des vrais sujets. Parce que un tétraplégique, souvent on voit quelqu'un en fauteuil roulant, on dit ah le pauvre il peut pas marcher. Il faut savoir que la tétraplégie, marcher, ça doit être le troisième ou quatrième objectif. Je crois qu'il y a eu des études de fait. Et le premier, c'est retrouver un peu d'autonomie dans les gestes du quotidien et notamment pour les besoins. Ça, on se rend pas compte. Et donc si on évite ces sujets-là, c'est qu'on passe à côté du vrai sujet. Parce que là, le but c'était de faire une immersion dans le cœur du handicap. Et si on parle pas de ça, ça veut dire qu'on n'assume pas tout, et nous on l'a assumé, et comme on l'a assumé comme eux, on a essayé de l'assumer avec pas mal d'autodérision.
Et ça pose aussi la question de l'intimité, puisque cette conversation que vous avez avec, dans le film, que votre personnage a, Pablo, avec son ami, elle se fait en présence de l'infirmière, et on se rend compte dans le film que tout, en effet, les besoins essentiels, aller aux toilettes, tout ça, il y a toujours quelqu'un, donc je me dis, ça c'est quelque chose de très...
Parce que l'infirmière lui tient le téléphone, parce qu'il peut pas, il a pas assez de force avec sa main pour tenir lui-même le téléphone. Donc il se confie à son pote et c'est une aide-soignante qui lui tient le téléphone.
Et on peut pas raconter l'intime. Comment on raconte les moments de détresse absolue, de tristesse? Parce j'imagine que vous avez eu envie de pleurer au téléphone, de parler à vos proches, mais en présence de quelqu'un.
Ça, par contre, on le voit pas beaucoup dans le film. Pardon. Il y a pas de
l'intermoment.
Il y a pas de moment de dépression totale. Il y a des moments de questionnement, oui.
De la part de Ben, pas trop.
Non, mais d'autres, oui.
D'autres, oui. Il y a quand même des
tentatives.
Il y a des tentatives. Ouais. Il y a le thème du suicide qui rôde toujours un peu autour. Alors Ben, lui, il se trouve que dès le début, il a de l'espoir. C'est-à-dire qu'il rebouge un doigt de pied. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais lui, il s'accroche à ça pour se dire bon, ça peut un peu aller loin cette récupération. Donc lui, il y croit. Donc forcément, il est un peu moins abattu que les autres. On voit que bon, on va pas tout spoiler, mais il y a des moments dans le film quand même où il prend sa petite mauvaise nouvelle aussi. Donc il les encaisse parce qu'en plus il récupère et il se dit au fond de lui, il a presque une culpabilité de récupérer par rapport à tous ses potes autour qui ont pas la moindre récupération.
Les potes du basket qui se retrouvent en finale et qui lui font la promesse de quoi qu'il arrive, t'auras ta place sur le banc pour la finale. T'as intérêt à être là.
Ouais, c'est lourd, hein. C'est dur. Hein. C'est dur. C'est très beau. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup d'autodérision.
Ça va.
Mais non, c'est des moments.
Quelle bandeuse.
Bah, les retrouvailles avec l'équipe de basket, par exemple, qui est le rêve de ce personnage.
Quel moment fort du film. C'est quel moment fort. Moment super fort. Alors la musique est très présente dans la BO. Vous allez même nous offrir le titre du générique de fin dans quelques instants. Mais il y a un truc moi qui m'a manqué et que je croyais beaucoup plus présent, c'est les moments d'écriture, les moments où vous devenez auteur et vous plongez dans les textes. Il y a qu'une vanne qui est faite sur les lettres de G. Et, t'as qu'à écrire autre chose. Mm-hmm. Mais et là je me dis là il va se passer. On va lui apporter un dictaphone, il va commencer, il va y avoir de l'écriture, il va y avoir du texte. Vous n'avez absolument pas voulu en parler ?
Non, déjà parce que j'ai écrit quelques textes à ce moment-là, mais c'était très anecdotique, ça restait au fond du tiroir. Le vrai déclic, il s'est fait quelques années après, quand j'ai vraiment découvert le slam. Et en plus, une fois de plus, c'était vraiment pas le propos. Là, c'est l'histoire de Ben, c'est pas l'histoire de Fabien, d'accord, qui devient grand corps malade. Donc, il n'y a rien sur ma vie privée en dehors du centre, il n'y a rien sur la naissance plus tard du slam. Voilà, c'est vraiment pas le propos du film.
Et réaliser ce film,
co-réalisé avec Mehdi Idir, faut quand même citer Mehdi Idir, qui est mon pote de longue date, qui a fait tous mes clips depuis 10 ans. Et voilà, c'est un tueur, c'est une machine à idées, et la collaboration avec lui, ça a été génial.
Et revenir dans ce centre ?
Non, ça a été vraiment, c'est vrai que c'est un lieu chargé en souvenirs et en émotions, mais ouais, avec Mehdi, on était en mission, on avait un film à réaliser, on s'est pas laissé déborder par l'émotion.
Un petit sourire de Pablo, pourquoi ? Parce que
j'aime bien cette idée, en fait. Moi aussi, je m'imaginais que ça allait être un petit peu compliqué pour Fabien de revenir là-bas. Et pas du tout. Ça lui a rien fait du tout. Il était content d'être là pour les aspects physiques du centre. Mais il n'y avait pas d'émotion tant que ça.
Même à retrouver les aides-soignants, même à retrouver Jean-Marie, même...
Ouais, Jean-Marie aussi, c'était rigolo. On l'a retrouvé pendant les repérages.
Et c'était il y a 20 ans, quoi.
Je l'ai vu arriver au loin, j'ai dit non, Mehdi, regarde, c'est Jean-Marie. Parce que Mehdi avait lu le livre, et il avait lu le scénario, et du coup, on a parlé avec lui, et en 5 minutes, Mehdi avait mal à la tête, et il a dit d'accord, c'est bon, c'est lui, je le reconnais, pas de problème.
C'est un très 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 bon film, c'est intelligent, c'est fort, rien n'est gratuit, tout est vrai, en tout cas, et si, pour quelque raison que ce soit pour quelque chose de grave, ou même un petit bobo, vous êtes passé, ne serait-ce qu'une journée, dans un hôpital, vous allez retrouver les codes. C'est vrai que quand on est allongé sur un brancard, même quand on sort du d'une ambulance et qu'on est comme ça transbahuté, qu'on se retrouve avec la perf posée sur le ventre parce qu'il faut aller vite. Ce sont des codes que vous allez rapidement retrouver.
Spéciale dédicace à Daniel Morin.
Tout est vrai.
Et puis voilà. Tu te dis en sortant, tu te dis aussi, mais attends, qu'est-ce que j'ai de la chance, n'empêche, au quotidien et finalement. Les petits ennuis du quotidien, ils sont balayés d'un revers de main très rapidement. C'est ça,
ils
aussi,
sont, pas, ils sont, important, ils sont où les vrais problèmes.
Bah ouais, voilà, les, sont... C'est vrai que les soucis ont une autre échelle dans ce genre de santé.
Ça s'appelle Patient, donc le film comme le livre. Le livre est publié aux éditions Au Point, mais le film sortira demain, 1er mars, avec Pablo Poli. Entre autres, le casting est important. Je peux aussi vous donner les autres. Il y a Soufiane Guerab, Moussa Mansali, Naïla Arzoun, Franck Faliz, Yannick René, Jason, on va dire comme ça, voilà, Ivengele, Rabban Haït Oufella, Alban Ivanov, Anne Benoît, Comme les vins et
Dominique Blanc.
J'ai pas, voilà, et j'ai pas assez insisté sur Samia qui est belle comme tout.
Ouais. Ouais, Nelly Arzoun, super actrice, et voilà, qui est magnifique dans le rôle de Samia. Et juste, j'insiste sur ces, nos cinq jeunes principaux, donc Pablo Kella et les quatre autres, qui jouent les rôles de Farid, Samia, Toussaint et Steve. On est allé les chercher avec Mehdi, on a fait 4 mois de casting, on voulait déjà des nouvelles têtes, on voulait un peu, voilà, un peu de têtes fraîches, là on voit quand même un peu beaucoup les mêmes. Et en plus, on dit que ce serait plus crédible de mettre des têtes inconnues dans des fauteuils roulants, parce que du coup, on se dirait pas, tiens, ils ont mis telle star dans un fauteuil. Et voilà, on savait que c'est eux qui allaient tenir le film, c'est pas un film avec des actions, des effets spéciaux. Et on est super fiers, on est très très fans de nos 5 acteurs principaux, ils sont beaux, ils sont drôles, ils sont émouvants. Et à chaque fois, on les remercie de tout.
Mais l'action, on peut l'avoir dans un regard, ouais. Et les effets spéciaux, on peut l'avoir dans des déclarations et dans des vannes, et il y a tout. Voilà. C'est un très bon film, et vous sortirez grandi de l'avoir vu, comme nous l'avons vécu. Vos oreilles ont sifflé, oui. Leïla, quand on vous a dit que Grand Corps Malade et Pablo Poli venaient aujourd'hui.
Oui, et quand je pense à vous, Grand Corps Malade, je pense à votre voix. Et récemment, je l'ai entendu dans Toy Story. Mmh. Je suis tombée là-dessus par hasard.
T'es prêt à tout.
Vous êtes la voix du clown Rictus qui nous explique pourquoi Lotso est devenu si méchant.
Un jour, on est parti se promener. On s'est arrêté et on a un peu joué. Et puis l'après-midi, Daisy s'est endormie. Jamais on ne la revit.
Mais moi, vous m'avez collé un peu les chocottes quand même dans Toy Story, faut le dire, Grand Corps Malade. Cette voix-là est une identité incroyable. On vous reconnaît, mais tellement de loin. Je crois que vous faites encore un peu de doublage aussi, parfois, pour des dessins animés. Vous êtes papa. J'imagine que ça doit avoir une résonance particulière d'entendre la voix, votre voix dans un film que vous pouvez montrer à vos enfants.
Ouais, c'est super marrant. Là, je viens de faire une voix pour un dessin animé qui est encore à l'affiche, qui s'appelle Sahara, une histoire de serpent, où je joue le rôle du méchant. Alors, il fallait que je mette un peu plus de grain, je vieillis un peu ma voix comme ça.
C'est super. Ganache.
Je ne fais pas aussi bien qu'Albert, comme ça, c'est sûr. Après, je suis allé voir le film avec mes enfants. Forcément, ça a une petite saveur particulière, c'est agréable.
Et ça, c'est des collaborations qui sont, que vous appelez de vos voeux. Qui sont...
Non, j'en ai fait 2-3. Ouais. Voilà, c'est des gens qui sont venus me chercher en me disant que la voix correspondait au personnage. C'est pas un objectif de carrière. Ouais. Quand ça tombe, ça tombe. C'est marrant à faire.
Et des voix de documentaire. Est-ce qu'il y aurait un produit télé, cinéma, je ne sais pas, ou raconter des histoires sur des supports CD?
Faut vraiment que je sois un peu séduit par le projet. On m'a proposé beaucoup de voix off, de documentaires et tout. Pour l'instant, je n'ai pas fait.
Émission de radio aussi, non?
On m'a proposé. Là, je peux pas vous dire parce que vous êtes peut-être pas encore au courant.
Le 11h sur France Inter.
Je comprendrai en même temps.
Il recommence à pleurer. Ça l'a vraiment beaucoup ému, ce film.
En fait, dès que je vois Fabien, je pleure. Parce que je sais ce qui va m'arriver.
Et quand je pense à vous, Pablo, je pense au dernier film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest, où vous incarnez un jeune avocat prêt à s'engager dans la bataille.
On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans.
Pour arroser les grands médias.
Je suis médecin, moi.
À Pam Pam Girl.
Ça va être Hiroshima.
C'est pas mon moment de te dégonfler.
Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis.
Emmanuel Berco qui a décidément
c'est
l'œil.
La voix de Fabien, là
qui a l'œil très, très pour repérer comme ça les jeunes talents. Je regardais votre bio, je ne sais pas du tout quand vous êtes né, c'est une information qu'on ne trouve nulle part. On voit un petit peu votre itinéraire, on va en parler tout à l'heure dans la bande originale de votre vie. Comment s'est passée la rencontre avec Emmanuelle Berco? Comment vous en êtes arrivé à elle ou elle à vous?
D'une manière très classique, j'ai passé des essais pour ce film-là, qui ne s'était pas bien passé du tout, j'avais pas du tout aimé ce que j'avais fait. Et j'appelle mon agent, ils disent bon bah ça c'est mort, désolé, j'ai un peu déconné. Et un an après,
comment ça un peu déconné, ça veut dire que
j'étais pas content de ce que j'avais fait, mes essais c'était pas très bien passé, j'avais un peu trop bégayé, j'étais pas content d'être, enfin je me trouvais pas bon, voilà. Et un an après, elle me rappelle, me dit bon là c'est toi, on commence là. Je dis mais comment ça c'est moi, j'ai fait n'importe quoi.
Oui mais c'est, non, 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 oui, mais c'est le rôle d'un bug.
C'est le rôle d'un autiste, c'est pour toi. Et du coup, on s'est mis à travailler ensemble et on a fait le film et je suis hyper content d'être dedans.
Tout simplement.
Ouais, vraiment d'une manière très très classique.
Et donc il y a d'autres occasions comme ça où le casting semble complètement foiré et ça passe.
Bah c'est assez rare. Habituellement c'est même plutôt l'inverse. Ouais. Tu sens vite les choses pour patient, tu sens assez vite que ça s'est bien passé. Je suis resté toute l'après-midi avec eux à faire passer des scènes à d'autres gens.
Ouais.
Et très vite on s'entend très très bien, Mehdi, Fabien et moi. Donc tu sens un truc, tu sens que ça sent bon. Et puis tu le veux ton machin, donc tu relis le scénario le soir, tu te dis vraiment ça pourrait vraiment être super pour moi. Donc tu travailles, tu rappelles, et puis ça fonctionne comme ça.
Et vous savez, est-ce que vous étiez en concurrence avec d'autres comédiens pour avoir le rôle de Ben?
Ouais, forcément, mais je sais pas qui.
Le rôle de Ben.
Ouais, je pense que oui, mais je... Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas.
L'important c'est le résultat. Et vous le tenez bien en tout cas.
Merci.
Ouais. Vous avez été avant. On ne sait pas qui il est, d'où il vient, mais on ne sait même pas s'il est né un jour.
Mais qui êtes-vous? Je l'ai pas encore.
Mais vous avez été aussi assistant réa.
Ouais.
Oui ou non?
Non, mais vas-y, tu vois.
Vous avez jamais été assistant réa?
Non, mais dites-lui ça lui fera plaisir.
Oui. Sur le clip d'Anna, vous avez rien fait du tout. Je croyais que vous aviez travaillé sur le clip d'Anna.
Pour qu'il ait café. Ouais, non, j'ai aidé un peu.
Bah voilà, en fait il ment.
Il
fait penser à Fanny Ardant, il raconte n'importe quoi dans les interviews en fait.
Non mais c'est que c'est un vrai métier.
Mais c'est Fanny Ardant.
C'est un vrai métier, moi j'ai juste aidé un peu.
Troisième assistant.
Ouais, ok.
Mais non, bah ok, j'invente pas, c'est vrai.
Mais là il ment aussi. C'est très vrai.
Bah voilà, c'est très vrai.
Mais comment tu sais ça?
On a des informations.
Si tu savais, les photos que j'ai aussi, c'est très inquiet. Et ben ça tombe bien parce que Anna Kova est là justement et en duo avec Grand Corps Malade, ils interprètent la chanson qui est la chanson du générique, accompagnée par Angelo Follet. Ça s'appelle Espoir adapté. C'est en live dans la bande originale.
Ah ouais, c'est sûr, c'est la merde, c'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Adapté, c'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, y'a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, y'a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, y'aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. I've been trying to let it go, been trying to free my soul, but all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body and bodies on my soul grows, my bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart abounding. I'll hold on to the second chance I'm reading. Et ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres. Sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre de mon figuré. Ceux qui ont adapté la vie pour rendre la mienne moins compliquée.
Merci Anna Kova, merci Angelo Follet et Grand Corps Malade avec ce titre Espoir adapté et la puissance du texte, encore une fois, tout ça signé Grand Corps Malade. Il est notre invité aux côtés de Pablo Paoli pour parler de Patient. Le film sortira demain sur tous les bons écrans. Voici l'humeur de Frédéric Sims.
Bravo. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Salut.
Alors, ce week-end, oui, ça va, vous allez bien?
Ouais, bien.
Oui, ce week-end, Christine Angot, la romancière qui dispute à Michel Houellebecq le titre de la plus longue dépression de l'année, a écrit une lettre à François Hollande, quand je vous disais qu'elle allait pas bien, le suppliant de se représenter.
Dans le JDD.
Oui, dans le JDD, voilà. Donc, longue lettre qui est parue effectivement dans le JDD. Alors, moi, je me suis posé la question, c'est quoi le projet? Est-ce qu'elle pense que Hollande va faire une allocution, genre, mes chers compatriotes, j'ai finalement décidé de briguer un second mandat, parce que Christine Angot, elle veut pas voter pour quelqu'un d'autre que moi. C'est cool, c'est cool.
Belle imitation.
Mais il reste quand même 60 millions d'électeurs à convaincre, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu partagé sur le sujet. Et là, je me suis dit, après tout, que moi aussi, je pourrais écrire une lettre, alors non pas pour que Hollande se représente, hein, parce qu'une période d'essai de 5 ans, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ils ont pas ça, hein, non, une lettre pour que les autres candidats ne se présente pas. Voilà, et je commence aujourd'hui par celui qui constitue une énigme pour moi, François Fillon. Voilà. Richard, est-ce que tu peux me faire une petite musique de lettres, s'il te plaît? Très cher François Fillon. Oui, j'ai dit très cher. Non pas que je tienne particulièrement à vous, mais d'après ce que j'ai pu lire depuis plus d'un mois dans le Canard Enchaîné, vous nous avez coûté un paquet de pognon. Très cher François Fillon, donc. Je veux par cette lettre vous faire part de mon incompréhension la plus totale quant à votre obstination à devenir président. Vous me faites penser à moi quand j'essaie de rentrer dans un pantalon taille 44. Même avec la meilleure volonté du monde, ça va être mal barré. Mais laissez tomber enfin. Alors, j'imagine sans mal que sur les marchés, vous devez rencontrer des tas de vieilles dames aux cheveux bleus qui s'agrippent à votre bras en vous priant « Tenez bon, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout !» Ce qui est finalement le même genre de discours que ma femme, pourtant plus jeune, me tient dans l'intimité. Mais n'oubliez pas que ces gens qui vous accostent sur les marchés ne travaillent plus. Une vieille militante qui vous suit en meeting, c'est juste une personne qui se fait chier. Elle vote pour vous parce qu'elle a que ça à faire, mais les grèves, les manifs, les blocages de raffineries, c'est pas elle qui va les gérer. Elle, elle va faire des sudoku pendant 5 ans en attendant le nouveau candidat à encourager. Je suppose également que vos amis vous expliquent que les sondages ne prouvent rien, que vous êtes dans une attitude de reconquête de l'électorat, que la justice est aux ordres du gouvernement, que vous êtes une victime. Mais dites-leur juste comme ça pour voir leur réaction qu'ils n'auront peut-être pas de ministère si vous êtes élu. Et vous verrez combien sont encore là si vous avez besoin d'un rein. Vous êtes comme tout le monde, François Fillon, vous voulez être le héros de votre propre histoire. Mais monsieur Fillon, quand vous êtes seul avec vous-même, en pyjama, dans le seul sanctuaire de tranquillité qu'un père de famille connaîtra jamais dans son foyer. En gros, quand vous êtes aux chiottes. Est-ce que vous vous souvenez qu'avant les révélations du Canard Enchaîné, les perquisitions, les auditions de votre femme et de vos enfants, la droite avait un boulevard devant elle? Et qu'aujourd'hui, elle risque de perdre cette élection à cause de vous? Vous dites que votre programme est le seul à même de sauver la France. Bon, admettons. Personnellement, votre programme me fait penser à un médecin qui prescrit l'anorexie pour perdre du poids. Mais bon, admettons. Si vous pensez vraiment que c'est ce qu'il faut faire de mieux dans l'intérêt du pays, donnez votre programme à François Baroin. La voix de Barry White dans le corps de Tanguy. Ça va plaire aux gens, ça. Même Pulpizarre, le Pokémon avec votre programme, aujourd'hui, il serait élu. À moins, bien sûr, que tout ça soit une histoire d'ego. Et votre ego, dans le cas de figure d'un deuxième tour vous opposant à Madame Le Pen,
il risque de ressembler à un banlieusard après un contrôle de police qui a mal tourné. Parce que dans mon cas, je vous le dis très gentiment, monsieur Fillon, non seulement je ne voterai évidemment pas pour le FN, mais je préférerais m'arracher les yeux avec une pince à sorbet plutôt que de voter pour vous. Donc, si le FN gagne l'élection de 2017, ça ne sera pas à cause des juges, monsieur Fillon, pas à cause de la presse, pas à cause d'un complot, pas à cause de votre programme, mais juste à cause d'un ego mal placé. Si vous voulez vraiment avoir la stature d'un président, faites comme François Hollande. Retirez-vous.
Original. Nagui sur France Inter.
À propos de lettres adressées en période présidentielle, le grand corps malade.
Monsieur le Président ou Madame la Présidente, à l'heure où je vous écris d'une main impatiente, je ne connais pas votre nom, je ne connais pas votre camp, mais permettez-moi ce message, ça ne prendra pas longtemps. Je veux d'abord vous adresser toutes mes félicitations. Vous venez de remporter la plus belle des élections. Vous avez dû batailler dur pour en arriver là, donner quelques mauvais coups et encaisser les coups bas. Mais si vous avez atteint la plus haute des fonctions, j'espère que ce n'est pas pour votre unique ambition, mais bien pour essayer, et par tous les moyens, de rendre une vie meilleure pour tous vos citoyens. Car vous le savez mieux que moi, le plus dur est à venir. Vous avez fait des promesses, il va falloir les tenir. Des gens ont voté pour vous, une belle majorité. Ne pas les décevoir sera la priorité. C'est que malgré tout ce qu'on dit, notre pays, on l'aime. On n'oublie pas la chance qu'on a, mais on voit bien les problèmes. Et c'est parce qu'on aime la France qu'on se doit d'être exigeant. Si vous voulez notre confiance, on ne pourra pas être indulgent. Bien sûr, on vous attend pour que vous vous penchiez sur le cas de ceux qui souffrent, de ceux qui luttent, de tous ces gens qu'on n'entend pas. Si vous vous montrez solidaire, c'est tout le pays qui va vous suivre. Un pays qui tend la main est tellement plus beau à vivre. Et si vous construisiez l'avenir en vous occupant des enfants, offrir à tous le même espoir de devenir fort en devenant grand. Il paraît que sur le drapeau, il y a le mot égalité. C'est peut-être avec ce mot que vous gagnerez notre respect. On vous demande aussi de la franchise et un peu de sincérité. Tant pis s'il y a moins de rêves, au moins il y aura de la vérité. Ce serait bien que pour une fois on prenne le peuple au sérieux. Là-dessus, vu vos prédécesseurs, vous ne pourrez faire que mieux. Puis si vous pouviez aussi agir sur l'ambiance générale, moins de regards de travers et une France plus conviviale. Toutes nos petites différences, c'est une richesse à sauvegarder. Un pays multicolore est tellement plus beau à regarder. Ayez la culture de l'humain plutôt que la culture du chiffre. Ayez la culture de demain en misant sur l'altruisme. Il paraît que sur le drapeau, il y a le mot fraternité. C'est peut-être avec ce mot que vous ferez notre fierté. Écrire au président, ça pourrait paraître pompeux, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'on a envie d'y croire un peu. Croire que ça peut marcher, même si souvent on a des doutes. Croire que ça peut changer, parce que là on fait fausse route. Monsieur le Président ou Madame la Présidente, si je vous écris cette lettre d'une main exigeante, c'est que vous êtes au sommet, et franchement c'est la classe. Mais laissez-moi vous dire que j'aimerais pas être à votre place. Ça doit être chaud, c'est que du stress et de la pression à haute dose. Et tous ces gens qui vous écrivent alors qu'ils connaissent pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, moi je suis sincère dans ces remarques que je vous lance. Maintenant c'est à vous de faire, la France vous regarde. Alors bonne chance.
Waouh.
Pablo Poli qui dit mais t'écris vachement bien Fabien. Elle a pas pris une ride.
Par contre le président lui.
Ouais, c'était il y a 5 ans.
Ça. Ouais, 2012.
2012, ça s'appelait mai 2012. J'ai peur qu'elle ait pas pris une ride, j'ai peur qu'elle soit d'actualité dans 5 ans. Je sais pas, j'espère que non, on verra.
Faudrait la ressortir là.
Ouais, bah, c'est grâce à vous, ça y est, ça ressort. Je vais la ressortir demain. Non, mais c'est vrai que là, c'est toujours d'actualité.
C'est dingue.
Ouais, j'avais pas réécouté depuis 5 ans, je crois. C'est...
On parle de patience, ouais, moi aussi j'ai envie d'y aller. Encore. On parle de patience, ce film de Grand Corps Malade qui sort demain. Et on a demandé à François Chevet, merci François de venir à ce micro. Vous êtes kiné, vous étiez kiné au centre de réadaptation de Courbet en Seine-et-Marne. C'est-à-dire que vous vous connaissez bien tous les deux.
C'était mon kiné.
Voilà. C'est le barbu dans le film.
Voilà, exactement. C'est le vrai François qui est joué par Yannick Renier dans le film. Et voilà, c'est l'histoire de François. François, c'est notre binôme qui a été remis à l'écran. Et François, en plus, était là sur le tournage au quotidien.
Il vous a conseillé ?
C'était un peu le coach des acteurs pour le bon geste, la bonne position pour que tout soit très crédible en termes de para ou de tétraplégie.
Vous avez, François, retrouvé dans ces images ce qu'était le quotidien à Coubert ?
Oui, complètement. Aussi bien du côté soignant, que je connais un petit peu, et puis du côté patient, puisque sur les 5 personnages qu'on voit principalement à l'écran, il y en a 3 qui étaient mes patients.
D'accord. Donc, et tout ce que l'on a dit précédemment, c'est-à-dire les vannes, les montées de, ou les, plutôt les descentes de, d'humeur et voire les dépressions, tout ça, vous l'avez vécu, y compris l'absence de volonté d'aller dans la piscine, notamment pour faire quelques mouvements et une aération d'air chaud qui se fait pour certains. Enfin, tout ça, c'est.
Tout à fait. La piscine, pour un tétraplégique, c'est quand même assez compliqué, hein. Ils ont déjà des perturbations de sensibilité.
La verticalité
thermique.
Aussi.
Ouais, c'est très bien rendu, avec film, des effets un peu comiques.
Non, non, un vertige, ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'ils sont tellement allongés, en fait, que tout d'un coup, quand on les aide à se redresser, c'est...
Tout le sang redescend dans les jambes. Il n'y a plus de muscles pour faire remonter le sang au cerveau.
D'où l'effet comique en question, que l'on ne développera pas.
Absolument pas.
Autant
mais le malaise, lui, existe.
Autant voir le film. Quelle a été votre première réaction en voyant Patient? C'était une réaction d'émotion?
Alors, il y a eu les deux. La première fois que je l'ai vu, c'était une réaction de travail. C'était pour constater à quel point les cinq, mais pas que les cinq principaux, avaient été justes, en respectant à la fois les patients, également les soignants, l'équipe soignante. Ça, c'était ma première vision. Est-ce que ça, c'est bien? Oui, là, on a réussi, ça, c'est pas mal. Et puis la deuxième fois, ça a été le versant d'émotion, parce que là, après, on lâche un peu, et on retrouve forcément des choses qui nous ramènent à tous dans notre passé. Et l'émotion, elle fonctionne très bien, parce qu'ils sont justes.
Un kiné a un sentiment de but à atteindre autant que le patient, c'est-à-dire qu'il s'implique autant et c'est autant une victoire pour lui que pour le patient que de réussir à obtenir des progrès d'un jour sur l'autre.
Alors c'est vrai que la victoire n'est pas forcément au bout des progrès, elle est au bout de la construction d'un projet de vie. Et ce projet de vie, pour certains, il va effectivement s'accompagner d'une récupération, c'était le cas de Fabien. Pour d'autres, et on le voit dans le film, il n'y aura pas de récupération. Et malgré tout, il faut trouver un espoir adapté. Il faut trouver un projet adapté. Il faut construire avec les familles, avec le patient, une nouvelle façon d'envisager sa vie. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de qu'est-ce qu'on ne peut plus faire aussi.
Les moments clés, les moments charnières dans tout ce travail de rééducation, c'est comment les déterminer? Est-ce que c'est prendre le problème du bon côté dès le début, savoir exactement quoi faire, ou c'est vraiment chaque seconde au quotidien, chaque séance qui est importante?
C'est travailler sur l'autonomie dès le premier jour.
Le premier rapport est important aussi, entre le corps médical et le patient.
Oui, la confiance, être au service d'eux, voir ce qui va revenir, exploiter tout ce qui revient, et malgré tout être très franc, dire que si ça ne revient pas, bah on travaillera avec ce qui est revenu, et on va développer ça. On laisse du temps, c'est pas la peine d'être agressif ou brutal, même si nous, quelquefois, on arrive à savoir que ça ne reviendra pas.
J'ai l'impression que vous faites travailler, quelque part, plus l'esprit que les muscles dans le rapport.
Oui, mais le patient vous demande les muscles surtout, lui.
Oui.
Il vient tous les jours en séance pour récupérer.
Et comment gérer le moral? Comment est-ce qu'il y a des moments, on voit dans le film, il y a des moments où vous vous posez, où c'est plus le kiné, c'est vous asseyez, vous parlez, vous prenez le temps, oui. Justement aussi d'échanger. C'est extrêmement important.
Oui, en acceptant que justement, il ne faut pas forcément dire tout ce que la personne a envie d'entendre. Tu vas travailler, donc tu vas récupérer.
Et il faut forcément dire la vérité tout le temps?
Oui. Oui, en l'accompagnant de toutes les précautions qu'il peut y avoir, parce que je crois que c'est bien dit, on parle d'espoir adapté, donc on ne peut jamais enlever l'espoir d'une récupération. À un moment dans le film, c'est dit, hein, les progrès de la médecine existent, mais il faut aussi se confronter à la réalité. Et à un moment donné, il faut poser la blouse, entre guillemets, se mettre entre quatre yeux, et puis parler de la vie, parler de ce qu'on aime et de ce qu'on peut faire encore dans la situation dans laquelle on est.
Frédéric Sigrist.
Et moi, François, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est pas finalement trop compliqué, c'est une question technique, de travailler au jour le jour avec un type aussi chien que Jean-Marie?
Non, parce qu'on a beaucoup d'amour pour Jean-Marie.
D'accord.
De la même manière qu'il nous aime. C'est très très sympa de parler de Jean-Marie, parce que je crois
c'est un personnage. Hein.
Ah, c'est un personnage, il est comme ça. Moi, j'ai toujours travaillé avec lui comme ça, et je crois que quand on le voit maintenant, il est encore comme ça. Et après, on se dit, mais comment est-il arrivé comme ça? Et on ne sait pas grand-chose de Pablo. Est-ce qu'on sait des choses de Jean-Marie? Je crois qu'il faudrait fouiller un peu. Ce qu'on peut juste dire, c'est que quand les soignants de proximité, vous parliez tout à l'heure d'intimité, sont plongés comme ça au quotidien. Dès le matin, imaginez, ils arrivent à 6 heures et tac, tout de suite, ils vont travailler, rentrer dans une chambre, aborder des problèmes intimes immédiatement. Il faut qu'ils se protègent.
Ouais. C'est pour ça que
et cette
il,
distance-là, elle est toujours là. Ouais. Elle est toujours là. Et en kiné, avec Fabien, très vite, moi j'aurais pu commencer par vous, monsieur M, comment nous allons faire, etc. Mais on sait qu'on a affaire à un sportif. Donc on travaille avec un tutoiement, on sait que là, on a des objectifs communs. Voilà. Est-ce qu'un jour on sera dans les bars parallèles?
L'humour, on l'a dit, est très présent. La manière dont ils se chambrent, dont ils se vannent. Est-ce que ça, c'était particulièrement Fabien, ses potes et la bande qui c'était dans, donc dans les années 90 qui s'est retrouvée là, ou c'est finalement intemporel, quoi qu'il arrive, dans tous les centres de rééducation, tous les malades ont besoin de cette forme de d'autodérision et d'humour pour garder le moral.
Oui, il y a un vrai humour patient, il y a un vrai humour soignant aussi, hein, qui se retrouve, qui je pense est le même dès qu'on est dans des situations de handicap assez lourds. Maintenant, Fabien, au moment où il arrive dans le centre, il est entouré d'une bonne bande avec laquelle ça fonctionne bien. Ce n'est pas toujours le cas, des fois les gens n'ont pas forcément les mêmes structures de rapport entre eux. Là, ça fonctionnait très bien, on voit bien les origines aussi. Il y avait une culture commune qui se prêtait finalement à un effet de bande et à un effet de jeune.
Voilà. Une culture un peu 9-3, il y a même carrément un fauteuil avec 9-3 comme s'il y avait une immatriculation de Seine-Saint-Denis.
Ouais, ça partait vite.
Ça partait vite. Et puis il y a l'humour et il y a l'amour, voire le sexe aussi. C'est un sujet qui est clairement débattu, qui est présent aussi, ou au contraire on met un voile pudique là-dessus et on n'en parle pas?
Non, il a sa place, il est aussi en fonction des demandes des patients. Or souvent, les garçons parlent avec les garçons, les filles avec les kinéfilles, etc. Nous, on a aussi un médecin qui est là pour ça, qui est habitué à ça, qui vous parlera aussi bien de sexualité que de procréation, etc. Il y a des choses importantes à dire et à faire assez vite.
Mais est-ce qu'il y a des assistants pour éventuellement
non, il y en a pas. Je sais
avoir des rapports sexuels, parce que ça existe?
Bien sûr. Pas dans les centres de rééducation, non, parce que c'est un passage qui sera momentané quelque part, même si c'est entre 3 mois et 1 an. Après, je pense que dans certaines maisons d'accueil, oui, il peut éventuellement y en avoir. Je sais que la Belgique et les Pays-Bas, je crois, sont largement en avance là-dessus.
Non, mais ça existe.
En France, ça travaille bien.
On en a souvent parlé, mais c'est vrai qu'il y a un côté tabou. Il y a un côté dire, appeler comme ça une personne extérieure pour venir satisfaire un besoin sexuel et être rémunéré pour ça et repartir. Il y a un côté hypocrite et choquant. Ouais. Mais il y a aussi des histoires d'amour, ce qui est aussi là.
Et puis beaucoup de choses se passent en couple. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je peux aussi aller à l'extérieur trouver les travaux d'une jeune fille. Mais néanmoins, lorsqu'on a un handicap, on essaie de travailler tout de suite avec le conjoint. Donc là, il y aura des discussions, il y aura des explications qui vont être faites surtout par le médecin, mais qui peuvent aussi être assistées par le kiné, bien évidemment. Donc on construit avant tout le couple. Pour les gens qui sont seuls, oui, l'existence d'une assistante, évidemment, est souhaitée. Et sera une des solutions.
Et lorsqu'il y a l'un des patients qui est, on va dire, plus noir dans ses pensées, qui est-ce qu'il risque de tirer tout le groupe vers le bas en ayant justement des idées noires, ce qui est un peu aussi, sans divulgâcher ce qui va se passer dans le film, mais ça peut venir interrompre aussi une liaison ou un moment de drague, de se dire... Oula, cette personne-là a fait des tentatives de suicide et peut être un danger pour,
ça existe,
pour nous.
Ça existe, les périodes noires, il faut qu'elles existent. Parce que la reconstruction passera. Elle passera par une période noire, bien évidemment. Il va falloir un moment toucher le fond et nous, il faudra qu'on soit là. Il ne faudra pas qu'on mente. Il faudra qu'on dise, ouais, là, ça va être dur. Là, il va peut-être falloir qu'on pleure. Là, il va peut-être falloir qu'on se reconstruise, qu'on revoie un peu avec la famille, qu'on retravaille avec un médecin. Et le groupe, plutôt que de le faire plonger, c'est le groupe qui remonte dès qu'il le peut. Le moral de celui qui est un peu en berne.
Et est-ce qu'il y a une inégalité de traitement selon les centres, selon les moyens, selon comment ça fonctionne réellement? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, enfin des centres privés, des centres publics mieux subventionnés. J'imagine que quand on est accidenté comme ça, on a envie de mettre toutes les chances de son côté et d'intégrer le centre le plus performant.
Tout à fait. On était déjà venu avec Fabien à un moment donné parler de cela à la sortie du livre. On avait déjà ce problème-là. C'est-à-dire que soigner une personne qui présente un handicap médulaire, ça va coûter cher.
Ouais.
Il faut l'admettre. Mm-hmm. Il faut le savoir. Est-ce qu'on va au bout de notre projet de santé?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on veut simplement dire, voilà, depuis les pompiers jusqu'à l'opération, jusqu'à l'arrivée dans le centre, ça, on a bien bossé. Et après? Est-ce qu'on brade la rééducation, on sort tout de suite, ou est-ce qu'on l'entoure? Là, il y a un vrai combat à mener, parce que j'entendais tout à l'heure Fabien parler du chiffre contre le être. Et c'est vrai qu'il faut se battre pour ça, parce que c'est le chiffre qui domine dans les centres de rééducation. Le projet médical est toujours plus dur à emmener lorsqu'il est bridé économiquement.
On manque de moyens, en fait.
On manquera toujours de moyens là-dessus. Il faut se battre tout le temps.
François, vous dirigez une compagnie de théâtre amateur, Blues en scène, que justement Grand Corps Malade parraine. Blues en scène, ce sont du personnel hospitalier qui...
À l'origine, on est pas mal à être issus du centre de Coubert, tout à fait. On avait cette vocation avec le secteur d'animation de les divertir un peu, Alors on démarre.
Que par des karaokés, parce qu'il y a des...
Tout à fait, on a essayé de mettre de l'ambition.
Il y a des moments de solitude au monteur. Et je m'y connais en karaoké. Il y a des moments de grosse solitude en karaoké.
On a essayé d'éviter le karaoké. On s'est mis sur des projets théâtraux et on y a mis toute notre passion. Voilà, Fabien nous aide, c'est vrai.
Et vous jouez... Alors,
depuis, ça s'est professionnalisé. Depuis les premières petites... les premiers petits spectacles dans, dans le théâtre de Coubert, voilà, maintenant il y a du décor,
il y a une structure, ça fait quelques années, une vingtaine de fois par an.
La pièce s'appelle Révolution, elle est en tournée, vous avez joué à Crisenois dans le 77, cette fois vous jouerez le 11 mars prochain dans une douzaine de jours à 15h au théâtre de la Camillienne à Paris dans le 12e, exactement 12 rue des Meuniers, Paris 12, une manière de revivre la Révolution française.
Oui, avec Fabien qui fait la voix de Marat, c'est assez pertinent quand même. ça incarne bien ses valeurs. Je pense. On avait pensé à Louis XVI et on s'est rabattu sur Marat.
T'as bien de baigner, hein, c'est
après
ça.
Après le clown Rictus, voilà, Marat. Tout est cohérent.
Il y a un domaine dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant. Tout à l'heure, Fabien l'a évoqué. C'est la famille, c'est les proches, c'est les intimes, leur présence aussi. Les parents de Ben dans le film sont très présents, même au-delà des heures autorisées de visite. Est-ce que c'est souvent le cas ou est-ce qu'il peut y avoir des proches démissionnaires?
On peut en trouver, mais vous parliez d'inégalité tout à l'heure. C'est vrai que voilà, la chance qu'a un patient, c'est aussi son entourage. Ouais. Là, Fabien, et on le savait d'emblée dès qu'on a vu la famille, c'est quelqu'un qui est très bien entouré, qui a un amour adapté à la situation à chaque fois. Et ça, c'est une grande force. Et d'autres dans le film ne l'ont pas. Et ça, on le voit bien.
Ils sont plutôt abandonnés.
Oui, ils ont des problèmes beaucoup plus compliqués sur leur entourage. Ouais. Ils n'ont pas cet univers sécurisé qui permettra de récupérer ce que l'on peut et d'être finalement avec ce qu'on a récupéré. Donc ça, c'est vrai.
La sortie, elle se passe, on quitte ce genre d'établissement pour différentes raisons. Soit on ne progresse plus et on va dans un centre adapté parce qu'il n'y a plus aucun travail à faire. C'est le cas de Simon,
de Toussaint,
ouais. dans le film. Soit, et c'est l'histoire de Ben, on peut à nouveau rentrer à la maison.
C'est vrai. Alors pour Fabien, c'est un peu particulier. Moi, je ne voulais pas qu'il parte. Parce qu'il n'avait pas complètement terminé sa rééducation.
Oh, et comme Luke Skywalker.
Exactement. Et à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on peut aller sur Tatooine ensemble? Et finalement, j'ai demandé au médecin, très sincèrement, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut encore garder Fabien 2 mois pour qu'on travaille? Parce qu'en termes de rééducation, t'es gens incomplets.
Il y avait encore du taf, ouais.
Oui, il y avait encore du taf. Et elle, très intelligemment, elle m'a dit, mais son projet à lui, c'est de ne pas être trop vite déscolarisé. C'est un jeune, il a besoin d'être confronté en même temps, pas qu'à la récupération, mais à la récupération, la rééducation et une reprise des
études. Parce qu'à l'époque, vous étiez étudiant en STAPS. Hein, ouais, vous vouliez faire un STAPS.
Étudiant, on ne sait pas trop, mais enfin bon, un peu comme ça, vous savez, les basketteurs, c'est toujours un peu glandos. Hein, mais...
Attendez, attention à ce que vous dites.
Par hasard, sur un shoot un peu lancé comme ça.
C'est pas qu'il voulait que je finisse ma rééducation, c'est qu'il avait peur que je lui manque. Au bout d'un moment,
faut le dire. C'est bien dit dans le film.
C'est joli, c'est joli.
Donc voilà, pour lui, il y a eu cette
belle complicité.
C'est quand même une déclaration d'amour aussi faite au personnel hospitalier, ce film. J'imagine qu'elle vous voit, elle vous voit droit au cœur.
Tout à fait. Dès que je vois Christiane, je sens que c'est une déclaration d'amour. D'ailleurs, je crois que Pablo le fait très très bien dans une de ses scènes. Ouais. On ne dit rien.
Merci François Chevet, merci d'être venu. On n'a fait aucune vanne. Vous avez dit Chevet, malade, patient, on a fait zéro vanne.
Est-ce que je peux simplement préciser quelque chose? Voilà. Je tiens à remarquer principalement l'énorme travail des 5. Des 5 étaient des véritables, des éponges.
Pour être au plus proche de la réalité.
Une adaptation, une écoute.
Des éponges, parce qu'ils buvaient beaucoup.
Pas tous.
On aurait dit trop.
Mais vraiment une excellente écoute.
Et ils sont justes. En tout cas, ils sont justes.
Et très respectueux de ce qu'est de la réalité. Merci à vous.
Merci François Chevet. Merci. On voit bien, Frédéric Sigrist, que face au handicap, la solidarité, l'entraide sont les meilleures armes. C'est des valeurs qu'il faut transmettre. Les proches, les amis.
C'est dingue. Il est riche, il est brillant, il pense aux autres. Youpi, c'est Monsieur Guy. Même si aujourd'hui, il me semble que vous avez surtout oublié de penser, en fait.
Ah bon?
Non, Monsieur Guy, face au handicap, une seule solution. Il faut fuir et penser qu'à sa gueule. C'est d'ailleurs ce que vous me disiez encore ce matin, en vous moquant de mon infirmité anacondienne, hein, tout en garant votre hélicoptère en diamant sur une place handicapée. Il faut fuir les handicapés, Monsieur Guy. Déjà, parce que dans un premier temps, il va leur être très difficile de vous rattraper. Et ensuite, parce que vivre aux côtés d'un handicapé, et je le sais, j'en ai un à la maison, c'est l'impossibilité de se plaindre au quotidien. Ah, ma chérie, j'ai de la fièvre, j'ai le nez qui coule, je crois que c'est bientôt la fin. Oui, ben regarde ton fils, il sera jamais drôleur. Est-ce qu'il se plaint, lui? C'est la dictature du relativisme au jour le jour. Essayer de susciter de l'empathie aux côtés d'un handicapé, c'est comme essayer de draguer à côté de Ryan Gosling ou d'Harry Roselmack. Personne vous calcule. Après, faut pas s'étonner que dans un pays comme la France, où se plaindre est devenu une discipline olympique, on soit à la traîne en termes d'accessibilité pour les personnes en mobilité réduite. Comment vous voulez râler sur votre sort si partout vous êtes entouré par des gens qui vivent des trucs pires que vous? C'est QFD. Et d'ailleurs, à propos de discipline olympique, quelle arrogance, quelle indélicatesse de ces athlètes aux Jeux paralympiques qui font avec des membres en moins des exploits sportifs que je suis pas capable de faire avec des membres en plus. Hein, regardez, monsieur Sigrist, sans les bras, sans les pieds. Oui, bah ça va, hein. L'autre jour encore, mon épouse s'extasiait sur Philippe Croizon. Tu te rends compte, Fred, le type a quand même traversé la Manche à la nage, sans bras ni jambes. Oui, bah ton Croizon, là, il arrive peut-être à traverser la Manche en nageant, n'empêche, il doit pas souvent mettre la table. Non, monsieur Guy, non. Il faut fuir le handicap. À moi, comme vous me le disiez encore ce matin avant l'émission, d'être comme vous, parrain officiel du Téléthon. Hein, ce qui, je vous cite, reste le meilleur moyen...
Je ne suis pas parrain.
Si, vous me l'avez dit ce matin. Hein. Non, pourtant, vous ventiez la machine au café. Hein. Hein, on remarque que la stagiaire qui est en face de vous n'était peut-être pas étrangère à cette déclaration.
J'ai frappé, Frédéric.
Ce qui, je vous cite, reste le meilleur moyen de passer pour un type bien et choper un paquet de gonzesses. En dehors de ça, je crois qu'on peut le dire, vous avez dit une fois de plus,
N'importe quoi.
Merci, merci. Et à propos de, justement, tiens, à propos de Philippe Croizon, il sera ce soir notre invité avec Michel Simès pour parler de l'émotion aussi. Comme ça, voilà, t'auras tout fait, t'auras même fait ma promotion.
Ah, ça me fait une belle jambe. Ce soir.
C'est la bande originale, soyez bienvenus avec Leïla Kadouali.
Bonjour à tous.
Frédéric Sigrist, Albert Aldo.
Bonjour.
Charles Cavalier. Et nos invités sont Pablo Poli et Gordon Malin. C'est n'importe quoi. Ça s'appelle Patient, et là, c'est pas n'importe quoi. C'est un film qui commence sur l'arrivée d'un patient dans un institut de rééducation et jusqu'à sa sortie. C'est vraiment du début jusqu'à la fin de ce passage-là.
Un an.
C'est pile un an.
Ouais.
C'est vrai?
Ouais, c'est ça. On voit. Un personnage qui s'appelle Monsieur Amlaoui, qui est toujours en fauteuil devant,
qui est devant sur le parvis,
toujours, ouais. Et il marque un peu les saisons. On le voit en polo, puis on le voit avec une petite écharpe, puis avec une grosse doudoune et un bonnet.
Il a vraiment existé lui aussi.
Ouais, il a existé.
Il est touchant parce qu'on a l'impression qu'il attend quelqu'un qui ne vient jamais. Enfin, c'est bouleversant.
Il est mystérieux, il parle pas, et ouais, c'est un personnage qui m'a marqué.
La patience, il en faut quand on est dans ces conditions-là, quand on est coincé sur un lit, sur un fauteuil, on est moins coincé parce que il y a un cri libérateur que vous poussez, Pablo, quand votre personnage utilise pour la première fois le fauteuil électrique, il peut sortir de la chambre, c'est déjà une victoire.
Ouais, mais c'est déjà une grosse victoire, c'est un beau moment dans le film, je trouve, alors que nous, dans la rue, on voit un handicapé en fauteuil, on se dit il est un petit peu enfermé, mais il y a déjà une belle victoire. Après ça, on vient de passer un mois ou deux alité, à rien pouvoir faire, à voir personne, et enfin je passe en fauteuil, c'est un très beau moment dans le film.
Il y a toute la progression, la rééducation, il y a les rencontres, les amitiés, le colloque aussi, parce qu'il y en a un qui arrive, qui repart, il y avait des posters de moto qui vous saoulaient un tout petit peu, et puis un autre arrive avec ses goûts musicaux, avec ses passions, avec ses échanges. Il y a la force du personnel, encore une fois, hospitalier, la rééducation, le médecin incarné par Dominique Blanc qui est venu faire un guest.
Adouber le film de sa présence.
Ouais,
c'est surtout un film sur les relations humaines, c'est-à-dire que évidemment en filigrane on suit un peu la rééducation de Ben, mais c'est pas l'objet principal du film. L'objet c'est vraiment voilà, on se retrouve dans un centre comme ça. Bon, il se trouve qu'à cette époque-là, Ben il a de la chance, il a pas mal de gens de son âge. Et ben voilà, du coup c'est plutôt les rapports humains qui l'aident aussi à se reconstruire. Donc ça va s'engueuler, ça va se séduire, ça va espérer ensemble. Il va y avoir des moments de découragement, mais voilà, c'est plus un film sur ces cinq êtres humains là qui se serrent les coudes.
C'est le 5 majeur, c'est le collectif du basket,
c'est
basket qu'on retrouve. Bah ouais. En filigrane, on le revoit ça.
Et c'est une jolie phrase de Farid dans le film qui dit, tu verras au début, le handicap, il essaie de rassurer Ben, en fait il le rassure pas trop finalement. Il dit, tu verras au début, le handicap c'est ta seule identité. Après seulement les gens découvriront qu'il y a un handicapé beauf, qui a de l'humour, un handicapé con. comme les autres. Mais au début, la première identité, c'est le handicap. Et j'espère que dans ce film, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, on s'attache à ces cinq-là. Enfin, on les découvre, ils sont en fauteuil, le handicap est très présent. Le spectateur est un peu pris à la gorge dans un univers qu'il ne connaît pas. Et puis, petit à petit, je pense qu'on oublie un peu le fauteuil et on s'attache surtout aux personnalités de ces cinq personnages.
Alors, les vannes et la manière dont vous vous chambrez sont très présents. Et on rit encore une fois beaucoup dans ce film. Il y a toujours la mort qui plane aussi. Il y a une phrase qui est dite, alors pardon si je la dis de travers, mais grosso modo l'idée c'est de dire le suicide, c'est une manière d'entrer, de sortir.
C'est ça, au centre, le suicide c'est une porte d'entrée comme une porte de sortie.
Voilà, la porte d'entrée, la porte de sortie dans ce centre.
Ouais, forcément quand t'as 20 ans, plutôt dans la force de l'âge et que tu te retrouves tétraplégique, c'est-à-dire pas la possibilité de faire le moindre geste, même pour les choses les plus élémentaires au quotidien, forcément c'est un truc absolument abominable à accepter. Donc voilà, selon le moral des uns, les possibilités de récupération des autres, ouais, le suicide est un thème qui passe pas loin.
C'est pour réhabiliter le corps médical, c'est pour donner du moral à ceux qui sont des patients, justement. Et il n'y a pas que ceux qui sont en fauteuil aussi, il y a des maladies graves qui ne se voient pas.
Ouais.
Aussi, est-ce que c'est aussi une manière de dire aux jeunes « faites gaffe » dans la vie,
on peut
éviter aussi des accidents et de se retrouver.
Bien sûr, c'est faites gaffe, hein, ça n'arrive pas qu'aux
mettez
autres.
Mettez la ceinture à moto,
la ceinture à l'arrière, etc. Évidemment. Après, ouais, il y a plein de choses. D'abord, c'est un zoom sur ce qui se passe vraiment derrière ces murs qu'on connaît pas trop. Donc, il y a plein de gens, je pense, qui vont apprendre beaucoup de choses sur la réalité de ces personnes handicapées. C'est aussi une sorte d'hommage à leur courage. C'est pas un courage de héros. C'est juste un courage. Ils ont pas le choix, en fait. Donc, voilà, pour
c'est
se
vital.
Lever.
Ouais.
C'est vital, si t'as pas ce courage-là, bah tu vis pas au quotidien, tu fais rien du tout, donc voilà, ils ont besoin de ce courage pour le moindre geste, pour le moindre effort, qui est juste de prendre un petit déj, par exemple. Bon, bah, il faut être courageux. Donc, c'est un hommage à ça. Hommage, évidemment, au personnel soignant. On voit leur importance pour faire vivre au quotidien ces personnes-là. Et puis, montrer la réalité de cet univers. Et dans cette réalité, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'espoir. J'espère que ça se sent aussi.
Ouais, ça se sent. Il y a une belle poésie. Vraiment, il y a quelque chose de très tendre, très beau.
Et évidemment, il fallait qu'il y ait un peu de NTM aussi.
Je t'explique ce que je kiffe. Fumer les spliffs et plus de construire les riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric.
Vous connaissez par cœur, je crois, Grand-Corps Malade, hein, les chansons voilà. d'NTM. Ouais.
Bah oui, c'est toute mon époque. Moi, j'ai grandi à Saint-Denis. C'était les pionniers du rap français dès le début des années 90. On pouvait pas finir le film sans faire une petite dédicace aux grands frères d'NTM. En plus, non, j'avais spoilé le film. Donc en plus, rien du tout.
En plus, le film sort demain. Voilà, et il faut le voir. Voici l'humeur d'Albert Algou, messieurs.
Mardi gras, t'en vas pas, je ferai des crêpes, mardi gras, t'en vas pas, je ferai des crêpes et t'en auras.
Maréchal.
On est en 2017. Hein.
Maréchal Ganache, je vous en prie, comme Daniel Morin est en train de passer de vie à trépas, ce dont tout le monde autour de cette table se contrefout, sauf moi, c'est le moment de mon humeur, Maréchal. Si je me permets d'ailleurs, Maréchal, de vous interrompre, c'est parce que j'avais l'intention, comme vous, d'évoquer mardi gras, pour déplorer qu'à France Inter, cette journée dont je m'attendais à ce qu'elle fût festive, ne l'est pas du tout. Prenons la bande originale. J'espérais que Nagui viendrait au minimum coiffé d'un fez, vêtu d'une gandoura et chaussé des babouches que lui avait offert autrefois Hosni Moubarak. Eh bien, rien de carnavalesque dans sa tenue, à part ses chaussures.
Et aucun cliché. Hein,
à part d'accord. ses chaussures dont il m'a dit qu'il allait faire don, et c'est tout à son honneur, à l'association Le Rire Médecin des Clowns à l'Hôpital. Prenons Leïla, eu égard à son féminisme intense et intransigeant, j'espérais qu'elle viendrait aussi vêtue qu'une fémène. Ben que dalle. Quant à Frédéric Sidris, qui passa jadis par la Lorraine, en dépit de son apparence qui fleure bon, la nonchalance postale des dom-toms, il aurait été à son avantage déguisé en Nadine Morano. Ceci dit, en errant dans les couloirs de France Inter, je n'ai pas davantage constaté que Mardi Gras était à l'ordre du jour. Exception faite, pardon, pour Laurence Bloch, notre directrice bien-aimée, qui arborait ce matin la coiffure d'Yvette Horner, période Tour de France, juchée sur une 4 chevaux. Et à cette exception, aucune fantaisie dans les bureaux. Patrick Cohen était déguisé en présentateur vedette, flanqué de ses deux assistantes court vêtues, préposées à ses soins manucures et à la stérilisation de sa bonnette de micro. Augustin Trapenard était en intervieweur culture, révisant ses questions, qu'il est seul à comprendre. Bref, la routine. Et il n'y avait que le maréchal Ganache, et le père Albert, pour faire honneur à cette journée de carnaval. Oh là,
Albert, l'homonymie que tu partages avec moi ne t'autorise point à insinuer que mon habit sacerdotal, qui fait qu'à moi-même je suis un peu ma femme, vous suivez, est une tenue propre à amuser les gosses. Et ne compte pas sur moi pour encourager mes jeunes en recherche à quitter ma camionnette bâchée cuir clouté noir qui fait aumônerie, faux trucs, amuse sociale, centre de rééducation et de déslamisation et salle de shoot garée avenue des branleurs derrière l'ambassade de Russie. Ne compte pas sur moi, Albert, en ce mardi gras, pour encourager mes jeunes à aller se livrer aux démons de la danse dans des bals masqués, ohé, ohé, qui sont les pires de tous puisque dans ces bacchanales, les créatures en mamelles, ces boules de vis derrière leurs loups et dans des tenues qui sont un défi à la pudeur et qui moulent jusqu'à leurs pattes de chameau, ces créatures.
Ah, ça vous étouffe, hein?
Font sombrer. Ah, ça me dégoûte. Je m'étrangle rien que d'évoquer.
Le diable est en vous.
Et le siffle aussi. Bon, ces créatures font sombrer mes garçons dans l'impureté. Bon, apaisez-vous, Père Albert, c'était une maladresse. Eh bien, moi, ganache, Albert, je pense que vous n'êtes qu'un con. Vous n'êtes qu'un con, Algo. Moi non plus, je ne laisserai pas davantage salir autant les bienfaits de la colonisation que l'uniforme que je porte. Si j'avais dû me déguiser, Algo, sachez que j'aurais revêtu le costume dont je vais vous laisser deviner à quoi il me faisait ressembler et que j'avais arboré un bal masqué, ohé, ohé, donné en mon honneur à mon retour d'Indo en 1954. C'était pour la fête intitulée « J'aime la châtre ». Oui, je rappelle à nouveaux auditeurs venus de Fun Radio que c'est ma ville natale. Quand j'y repense, je chaud à la gueule. D'abord, j'avais enfilé un collant et un col roulé couleur chair, bien plissé au niveau du cou. Sous chaque bras, j'avais coincé un ballon de basket, comme ceux de Ben, enveloppé dans des sacs en toile de jute. Et au sommet de mon crâne, préalablement rasé et teinté d'une belle couleur rose violacée, j'avais tracé au feutre une petite fente bien dessinée. Et comme le diable est dans les détails, sur mon front, j'avais laissé dégouliner une cuillerée de pâte à crêpes. Vous avez deviné à quoi j'étais, Frédéric, je crois. Vous avez suivi. En tout cas, Edmonde, qui venait quant à elle d'être élue Miss La Châtre et qui était déguisée en moule de bouchot, Edmonde avait tout de suite compris. Et c'est comme ça que je l'ai séduite. Ah, merci, Maréchal, c'est très beau ce que vous venez de dire. Ça suffit comme ça et n'en déplaise aux grincheux. Joyeux mardi gras à tous, à toutes et notamment à Daniel Morin.
Bien sûr. Ouais. 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 La bande originale, Nagui, sur France Inter. Quels sont les projets, Pablo Poli? Parce que vous retrouvez à l'affiche et à la une, j'ai envie de dire, de ce film Patient. On voit toutes les qualités de comédien que vous avez. Vous avez déjà participé, Leïla l'a rappelé tout à l'heure, à une demi-douzaine de films à peu près dans votre carrière. Vous avez des plans, vous savez déjà ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Vous comptez sur ce film pour que certaines personnes aussi aient l'œil qui frétille et le téléphone qui gratte.
Premier projet, c'est de partir un peu en vacances, après cette longue promotion. Bah, respirer un petit peu, puis prendre
c'est
mon
ça,
temps.
C'est ça les jeunes, dès que ça a du boulot, ça va se casser.
Non, au contraire, plutôt que de prendre tout ce qui bouge et de faire peut-être des erreurs, je préfère prendre mon temps. Je suis très fier d'être dans ce film-là, j'ai pas envie de faire des bêtises derrière. J'ai envie de prendre mon temps un petit peu, on m'envoie des choses plus ou moins intéressantes. Je fais le tri et je préfère attendre un petit peu, pas prendre trop de risques.
Le tournage a duré 7 semaines, hein, vous le précisez même au générique, parce que c'est une vraie histoire humaine aussi qui s'est déroulée sur ce tournage.
Oui, avec Mehdi Idir, qui a co-réalisé le film avec moi, on s'est rendu compte à quel point le cinéma était un sport collectif aussi. Là, il n'y a pas juste un 5 majeur, hein, y a beaucoup de monde. Et oui, c'est évidemment artistiquement, c'était fou, c'était un beau défi pour nous. Et puis humainement, on a créé une vraie petite famille avec nos acteurs, là, comme le dit Pablo. On sort de 3-4 mois de tournée province pour montrer le film un peu partout en avant-première, qui s'ajoute au tournage et à la prépa. Du coup, ça fait un an qu'on se connaît, qu'on vit ensemble un peu tous les jours. Voilà, c'est vraiment une...
Il n'en peut plus, Pablo.
Il n'en peut plus, Fabien.
Demain, on arrête. Demain soir, on se quitte.
Non, s'il te plaît.
Le livre qui a inspiré donc, le film, ou qui est même carrément le film, est publié aux éditions Point. Et puis, il y a un album aussi.
C'est un son plein de sourires dans un climat tendu qui espère et respire dans cette époque tordue. C'est le son qui propose des virages, des voyages, des clameurs, des visages. C'est le son des mariages.
Et si on chantait de toutes les couleurs, on va faire danser les corps et les cœurs.
Ah, moi, c'est le clip de campagne de Marine Le Pen.
L'album s'appelle Patient.
C'est la phase B.
Et c'est pas la BO du film.
Alors, il y a la BO du film.
Oui, il y a le titre. Et c'est pour adapter. D'accord.
Ouais, il y a... Est-ce que vous avez La vie, elle nous fait envie? Vous n'avez pas là ce...
Non, je l'ai pas.
Oh. Il a tout. Ça, c'est magnifique. Je suis très très fier de ses paroles.
Gros titre.
La vie. Ça, c'est dans le film. Rien que pour ça, faut vous faire des doigts.
Ça, c'est le moment du solitude.
Donc oui, il y a la bande originale du film, et puis
je précise, parce que vu les regards que j'essuie, c'est du second degré. Hein,
oui, 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 oui,
d'accord. Non, parce que c'est une blague. J'ai croisé deux, trois regards.
Merci.
Deux, trois regards inquiets.
Donc voilà, on appelle ça l'album du film. Il y a la bande originale, plus des titres existants inspirés du thème.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là, hors du temps, que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène.
Comme on est dans une période de post-César, si ce film n'est pas dans les meilleurs premiers films nommés au César l'année prochaine, je débarque pendant la cérémonie et je fais un scandale. Voici le brouillon de culture.
Bon, allez, attention, Paris tenu.
Grand corps malade, Pablo, je vous sors de la promo un petit bol d'air histoire d'apprendre à mieux vous connaître et on commence par un son pour tous les deux.
Messieurs, vous méprisez les gens qui sont en face de vous parce que vous pensez qu'ils sont pas capables de se défendre, de relever la tête et c'est ça qui a fait chier. Pourquoi j'ai pas été sauvé par Wurtz? Pourquoi il a refusé mon licenciement? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a montré un exemple. On a montré que la classe ouvrière, elle était capable de relever la tête et d'aller au combat et de gagner face à des multinationales et face à l'État. Et ça, ça vous fait tous chier. Et ça, moi, j'en suis fier.
Qu'est-ce qu'il est bon.
C'est un certain Xavier Mathieu face à Alain Minc. Xavier Mathieu qui, dans le film, joue le rôle du père de Ben. Xavier Mathieu, dans la vie, qui était le leader des Conti, ces ouvriers qui se sont battus contre la délocalisation de leur usine continentale de Clairvaux et qui avaient alerté sur leur sort en s'attaquant directement à leur direction et au préfet qui ne les écoutait pas. Xavier Mathieu avait été repéré, je crois, sur un plateau télé par Cédric Clapiche qui lui avait confié un rôle de syndicaliste dans son film Ma part du gâteau. On l'a vu ensuite dans Baron Noir, dans La loi du marché, dans Fleur de tonnerre aussi où il jouait le rôle d'un père. Et là, un nouveau rôle de père, un père qui parle peu finalement dans le film, mais qui en dit beaucoup.
Ouais, il était content de pas avoir un rôle de gueulard pour une fois.
Ouais.
Jusque-là, on lui donnait beaucoup ces rôles-là. Et justement, là, il a pu montrer aussi d'autres qualités. Et oui, tout se passe plutôt dans le regard et dans le peu de mots. Et c'est un super comédien. Et dans la vraie vie, voilà, c'est un vrai bonhomme. C'est ce qu'on connaît de lui. Il fait pas le mytho sur les plateaux de télé. Il est vraiment comme ça. Donc voilà, petite dédicace à Xavier Mathieu.
Voilà, vous vouliez lui rendre hommage en le choisissant dans le casting?
Non, on l'a choisi parce que c'était le meilleur en casting et qu'il avait cette émotion dans le regard pour faire le père de Ben. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il se trouve qu'en plus, humainement, on était content de l'avoir.
On poursuit avec un autre son pour vous, Pablo.
De toute façon, moi, si je ferais des films de boule, gros.
Faisais, le cinéma pas l'air, la putain de tarasse.
Ouais, faisais du classique. Tu vois, tac, ça dessus. Tac dans la chatte. Tac dans le boubon, 2-3 bifles en balle parce que c'est quand même la base et puis là tac. Tac tac tac. Tac tac Pascal.
Ouais, gros, rien de nouveau mec, de boule normale.
C'est un extrait d'En passant pécho, une web-série co-réalisée par Julien Hollande, le fils du président de la République, qui met en scène la vie d'une bande de dealers complètement déjantés.
La question, Pablo, que vous posez, pourquoi il fallait s'apposer avant de faire ça? Pas au moment où on diffuse l'extrait.
Mais si le pourquoi d'avant, je l'ai.
Et aujourd'hui, non? À refaire, non?
À refaire, oui. Enfin, moi, on s'est pas mal amusé à faire ça. C'était beaucoup d'improvisation. On pensait pas que ça allait avoir une portée aussi forte, mais moi, j'aime jouer, donc on me propose un truc à jouer comme ça qui me fait rire. Et j'y vais. Je pensais pas aux répercussions derrière. Ouais.
Dans un épisode, vous passez votre temps à vous faire cracher dessus. Vous ramassez une lasagne aussi.
Voilà, ce genre de truc. J'adore jouer, mais ça c'est autre chose.
Il faut tout accepter.
J'adore les lasagnes.
Il faut juste dire une chose sans encore une fois divulguer ce qui se passe dans Patient, c'est que vous jouez. Encore une fois, je le précise et je vous le dis dans le blanc des yeux, extrêmement bien. Et il y a une scène particulière que l'on ne va pas dévoiler, mais vous allez comprendre celle dont je parle, Grand Corps Malade et vous, Pablo, où vous avez regardé au ralenti, image par image, pour voir si, jusqu'au bout de la scène, les doigts restaient contractés, puisque vous étiez tétraplégique à ce moment-là. Et une scène très, très particulière où vous mettez votre physique, entre guillemets, en jeu, et vous l'avez joué, assumé et incarné, c'est même pas d'interprétation là. Vous êtes le patient en question, voilà. Donc vous êtes un bon.
Merci.
Et juste pour revenir sur cette biographie qu'on connaît peu de vous en fait, où il y a pas mal.
Troisième assistant sur l'équipe d'Anna Kovac, quand même.
C'est ça, hein, c'est ça. Pas... Oui, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous êtes un jeune comédien, qu'est-ce qui vous fait envie? Quel genre de rôle avant même qu'on vous les propose vous font envie?
C'est vrai, ça. Il a quel âge?
On ne sait pas. On ne sait pas.
On
ne
sait pas. Donc je peux inventer ce que je veux.
Non, non, parce que en gros, je peux spéculer aussi, puisqu'en 2009, vous entrez au cours Florent, ouais. Et je pense que vous êtes entré assez jeune, plutôt, dans les 18 ans, un truc comme ça, assez jeune.
Non, je suis entré ouais, 16-17 ans.
Ouais, bah voilà, ça. Donc voilà.
Donc vous faites vos petits calculs.
On fait nos petits calculs.
Et vous revenez me voir.
Mais des rôles qui vous plairaient particulièrement. Là, il y a tout à dessiner, il y a tout à imaginer. Il y a ce très beau rôle là, dans Patient.
Ouais. En fait, moi, le rôle dans Patient, ce qui me touchait le plus, c'est que des grands acteurs que j'admire sont passés par ces rôles-là d'handicapés. Je trouve ça très compliqué à faire, je trouve ça passionnant. Le message était très très beau à délivrer.
Vous pensez à quel genre d'acteur, à quel acteur?
Pour Patient en particulier, il y a Daniel Day-Lewis dans My Left Foot qui fait une performance un peu inégalable. Il y a Mara Dentro qui est assez incroyable. Il y a un film aussi belge qui s'appelle Hasta la Vista, qui est aussi sur une bande de...
Un road movie.
Qui était vachement bien sur le handicap.
Il parlait de sexualité d'ailleurs. C'est justement le but de leur road movie, c'était d'aller en Espagne.
Ils se cassent un peu pour
avoir leur première expérience sexuelle.
Exactement.
Pour pécho, justement.
Voilà. Ouais. Après, quelle sorte de rôle? Moi, j'aime jouer, vraiment, c'est... Je me limite pas et aux comédies et aux drames et aux films d'auteur à boire du vin rouge dans des bols. Moi, je m'en fiche si ça me plaît, si le rôle est intéressant et que le film a quelque chose à raconter et que le metteur en scène m'intéresse et que les partenaires de jeu sont intéressants aussi. Je vois pas pourquoi j'irais pas. Toutes sortes de rôles m'intéressent. J'adore jouer. J'adore ça, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la radio. J'aime jouer. C'est ce que j'aime faire. J'ai la chance de pouvoir le vivre. Donc je donne tout ce que j'ai là-dedans.
Et pour finir, un petit cadeau pour chacun d'entre vous, c'est « 7 voix sur le bonheur » aux éditions Équateur. C'est un collectif qui regroupe en effet 7 interventions, que ce soit des philosophes, des musiciens, des économistes. Il y a Boris Cyrulnik, par exemple, il y a Sylvain Tesson, en écrivain. Tous s'interrogent sur la notion de bonheur, sans jamais tomber dans les facilités. Est-ce que le bonheur doit être esthétique, en littérature, en musique, en poésie? Est-ce que on a besoin de héros? Ça, c'est Boris Cyrulnik qui développe cette idée pour accéder au bonheur. C'est une façon de questionner demain, l'avenir, et comment est-ce qu'on peut parvenir à trouver dans tous ces méandres de la vie quelque chose d'un peu positif.
Voilà. Merci beaucoup.
Joli. Avant de se quitter, on va faire une petite cascade de questions, des questions courtes, avec des réponses courtes, et on commence avec Frédéric Sigrist.
Alors Fabien, il paraît que Nagui est odieux dans les coulisses de Taratata et on voulait savoir si c'était vrai.
Ouais.
Parce qu'il l'est aussi.
Réponse courte, même pire que ça.
Albert Alco.
J'allais poser la même question.
Okay, merci. C'est important les amis dans la vie.
Vous m'a dit qu'il était vraiment odieux, c'est pour ça que...
Pablo, quel métier auriez-vous fait si vous n'étiez pas devenu comédien?
Trialiste professionnel.
Trialiste, c'est quoi?
C'est des motos trial sans selle qui montent des marches. J'étais destiné à
ça. Ça n'a rien à voir avec le triolisme. Le trial, contrairement à l'enduro, c'est là où il ne faut pas poser le pied par terre, c'est ça?
Voilà, exactement. Et tu grimpes des murs et ça n'a pas beaucoup de sens.
Frédéric Sigrist, une bonne question cette fois.
Paolo, vous avez quel âge?
26 ans.
26 ans, voilà qui est dit. Albert.
Vous avez déjà volé dans un magasin?
À qui vous adressez?
Ça, c'est pour toi, ça.
Pardon. Non, aux deux.
Pas beaucoup.
Moi, oui.
Et c'était quoi le dernier truc que vous avez volé?
Oh, je sais pas si ça remonte quand même.
Menteur.
Non, mais genre des bombes.
J'ai passé l'âge.
Ouais, un yo-yo.
Ah bon, ça va.
Ouais.
Une voiture. Leïla.
Grand Corps Malade, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez dit à Michael Jordan, notre idole commune, quand vous l'avez rencontré?
Je lui ai dit, j'avais préparé, parce que je parle pas très très bien anglais, mais je l'avais bien préparé. Je lui avais dit, tu sais, Michael, en France comme dans le monde, tout le monde t'aime, mais personne ne t'aime comme moi je t'aime.
Oh, c'est beau. Oh. Grand Corps Malade et Pablo Boris. Le film s'appelle Patient et il sort demain au cinéma. Des excuses à présenter, Frédéric.
Oui, des excuses. Désolé pour la direction de Skyrock qui nous a harcelé durant l'émission pour nous piquer notre slammer Grand Corps Marmelade. Il a hésité, mais comme il a bon goût, il reste avec nous. Désolé pour tous les roux qui se sont sentis humiliés par les propos de Grand Corps Malade. En même temps, les gars, fallait pas être trop. Désolé pour tous les basketteurs qui ont été quelque peu vexés d'être traités de glandeurs. En même temps, quand tu vois la carrière de Grand Corps Malade et de Leïla, les deux joueurs de Babal autour de la table, c'est pas complètement con comme réflexion.
Merci Frédéric Sigrist. Demain, c'est Isabelle Carré et Patrick Chenet qui seront nos invités dans la bande originale. Merci et merde pour demain, Grand Corps Malade, Pablo. Et vous méritez que le public soit au rendez-vous de ce très beau film. Encore une fois, vous sortirez humainement grandi et le cœur aussi sera gros. Vous en aurez gros sur la patate, mais vous aurez un gros cœur comme ça en sortant ce film Patient. Philippe Bertrand pour ses carnets de campagne, c'est maintenant, Philippe. C'est pratiquement l'heure.
Oui, donc. Merci les amis. Je suis impatient de voir patient. J'aime bien espérer, aimer, résister.
Ouais.
Ça me touche beaucoup. Et puis, le hasard
se vanner aussi.
Et se vanner. Ouais. Et on va recevoir tout à l'heure Pierre Gadret, qui est documentariste, qui réalise un film sur sa propre maladie.
Voilà. Ah, très bien, parfait. Bah, comme ça, on est sur la même longueur.
On est complet. Hein.
Absolument.
Salut les amis.
Salut Philippe. Merci.